Je suis actuellement dans ma vingtaine et j'ai jamais eu un entourage aussi sain et complet que celui que j'ai à l'heure actuelle. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi seule qu'aujourd'hui. En discutant de ce sentiment avec des gens qui m'entourent, je me suis rendu compte qu'il était largement partagé par la grande majorité, bien que différemment. Certains arrivent à vivre avec et d'autres moins, cherchant à tout prix des solutions pour y échapper. Je me suis posé alors deux questions. Faut-il apprendre à vivre avec ces moments de solitude que nous rencontrons ? En acceptant le fait que grandir, c'est admettre que l'on soit plus souvent seul qu'autre chose. Ou au contraire, faut-il faire quelque chose pour changer la situation afin de ne pas subir cette solitude? Si vous aussi vous ressentez ce sentiment et que vous vous posez ces questions, ou qu'elles résonnent en vous quand vous m'avez entendu les poser, alors bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Summer Talk avec votre dévouée Rouliette. On va parler aujourd'hui de ce sujet complexe et pas évident pour nous tous et toutes, alors partez pour une balade ou installez-vous confortablement, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos retours bienveillants et constructifs sur le dernier épisode, dont je suis mais alors plus qu'heureuse de savoir qu'il vous a plu autant qu'à moi. Je profite aussi de ces quelques secondes avant de démarrer le sujet du jour pour vous annoncer que oui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la couverture du podcast a changé. Depuis que j'ai réalisé à quel point j'avais envie de m'investir à 100% dans ce podcast, beaucoup de choses ont été retravaillées, peaufinées. Dont cette couverture qui j'espère vous plaît, n'hésitez pas à dire oui ou non sous la question qu'il y aura sous cet épisode. Bon, aujourd'hui nous nous retrouvons autour d'un sujet central dans la vie de beaucoup d'entre nous, bien qu'il soit assez tabou à aborder et à assumer sérieusement dans notre société. Parce que ce sentiment de solitude n'a en effet que très peu sa place dans une société dont la culture numérique, au fil des années, pousse à voir et à montrer le plus possible notre intégration sociale à travers nos réseaux sociaux. Stories de soirées, réels de vacances, posts de photos loufoques à trop mignonnes de nos amis, de notre famille, de nos amours, personne n'y échappe, moi comprise. Et s'il est inconsciemment agréable pour nous de partager au monde entier nos moments de partage et de rire, il est moins agréable de n'en être que le spectateur solitaire derrière son téléphone quand ce n'est pas notre cas. Alors que factuellement, nous sommes tous et toutes seules à échelle temporelle différée. Seulement, ce sentiment de solitude n'a aucun rapport avec le fait unique d'être seul. Il existe d'ailleurs une grande différence entre ces deux termes qu'il me semble important de définir dès maintenant pour ensuite en parler de manière juste de ce sentiment de solitude. J'ai trouvé une définition établie par Monika Kowalinska, que je rejoins à 100%, qui précise que être seul, c'est l'état physique dans lequel on est physiquement seul. C'est QFD, j'ai envie de vous dire. Alors que la solitude, elle, c'est un état émotionnel dans lequel vous vous sentez seul ou déconnecté des autres, quand bien même ils sont juste à côté de vous. Et il est important de dire qu'être seul n'implique absolument pas de manière automatique un sentiment de solitude. Être seul, c'est tout d'abord factuel, alors que la solitude, elle, c'est un ressenti émotionnel, qui varie selon les personnes. Être seul peut également être un choix, pour se reposer, pour recharger sa batterie sociale, ou même pour apprécier des moments en notre propre compagnie, parce qu'il fait du bien de se reconnecter avec soi-même, de faire des activités qui nous réjouissent, nous et nous seuls. A l'inverse, le sentiment de solitude n'est jamais un choix, il nous incombe. Il s'agit d'un ressenti passager ou durable que l'on peut ressentir autant en étant seul qu'au milieu d'un groupe de personnes. Et c'est en ce fait que cela diffère, selon moi, de juste être seul. Car même si la solitude survient souvent lorsque factuellement nous le sommes, le fait qu'elle puisse arriver aussi lorsque nous sommes entourés prouve bien que le facteur déclencheur n'est pas de ne pas avoir de compagnie humaine justement. On dit souvent de la solitude qu'elle se fait ressentir lorsqu'il existe un décalage entre les gens qui gravitent autour de nous, constituant notre noyau proche, et nous-mêmes. Que ce soit d'ailleurs un décalage de niveau professionnel, affectif ou de vie de manière générale. Ce qui est très compliqué à processer envers soi quand on ressent cet état, c'est qu'on ne parvient pas toujours en fait à identifier de quel décalage il s'agit. Parce qu'en prenant mon exemple, je suis entourée sur tous les plans plus que jamais je ne l'étais auparavant. Du haut de mes petites 23 années d'existence sur cette terre, j'ai travaillé à avoir un entourage sain, aimant, bienveillant, auprès de qui je me sens écoutée et comprise. Néanmoins, plus que jamais, je fais face à ce sentiment de solitude, comme si j'étais proche de tout en étant très loin à la fois. Alors comment expliquer d'où nous vient cette sensation ? Parce que en fait, moi j'avais envie d'en parler aujourd'hui, parce que ça peut paraître tabou, comme je le disais précédemment, pour nous d'accepter ou d'en parler avec les gens qui nous entourent sans avoir peur, en fait, de ne pas être légitime à le ressentir. Parce que, justement, on est entouré. Voilà, on n'a pas envie de dire qu'on se sent seul, qu'on ressent de la solitude, bah, parce qu'on a un entourage. Donc, on se sent pas légitime, on peut avoir peur de ne pas l'être. Ou alors, pire, on peut avoir peur de froisser les autres, comme si avouer que ressentir ce sentiment équivalait à leur avouer que leur compagnie n'était pas suffisante pour nous empêcher de le ressentir. Vous voyez un peu la dimension, on va dire, de cercle vicieux que peut entraîner ce sentiment-là. Et donc voilà, en parler avec vous aujourd'hui, de par mon expérience et ressenti personnel et celui de mon entourage, avec qui j'ai fini par en parler, c'est souhaiter justement enlever ce voile de honte, entre guillemets, de culpabilité et de tabou à se sentir seul de temps à autre. Surtout avec l'arrivée de l'âge adulte et de cette construction de notre nous en tant que tel. L'objectif derrière cet épisode aujourd'hui, c'est donc le suivant. C'est dans quelle mesure peut-on embrasser ce sentiment de solitude comme faisant partie intégrante de notre vie, de manière, on va dire, qui fluctue, sans que pour autant il ne représente chez nous un fardeau de mal-être ou encore de tristesse que l'on chercherait à compenser par tous les moyens possibles et qui peuvent parfois en fait ne pas être sains pour nous. J'y ai beaucoup réfléchi, de longues heures, seule entre quatre murs dans mon appartement et même en dehors, et je me suis dit la chose suivante à ce sujet. Il existe, je trouve, une certaine forme de pudeur qui augmente en vieillissant en fait, à verbaliser le fait que l'on puisse avoir du mal à se sentir seul. Parce que jeune en général, je dis bien en général, on y est beaucoup moins confronté. En effet, on va en cours tous les jours, on y est entouré par beaucoup de personnes, nos amis, nos camarades de classe, nos professeurs. Et le soir, on rentre chez nous, où on retrouve nos parents, nos frères, nos sœurs, etc. On peut même continuer de discuter avec nos amis via notre téléphone, de jouer aux jeux vidéo, de s'appeler ou autre. En gros, lorsqu'on est plus jeune, notre monde se résume plus ou moins à graviter autour de ceux des autres qui nous entourent quotidiennement. Et en général, ça ne va pas bien plus loin. Néanmoins, après la fin du premier gros cycle d'études, ici je parle du bac, on va dire en général, on nous met cette idée très particulière et quelque peu brutale, je trouve, dans la tête. Maintenant, fini le temps des rires et des chants, tu dois bâtir ton futur. On a un million de choses à devoir penser sur le long terme. On part parfois même de chez nos parents, le tout de manière simultanée, et nos amis aussi. On doit tout naturellement, en fait, pallier avec la déconstruction de tout un monde que nous avons toujours connu jusque-là, dans lequel nous gravitions simplement tous et toutes, encore une fois, je le rappelle, les uns autour des autres, pour construire désormais le nôtre, beaucoup plus centré sur un bon nombre de problématiques auxquelles nous n'avions jamais dû nous confronter jusque-là. On doit construire notre future vie professionnelle et déterminer dès la sortie du bac, enfin, plutôt pendant le bac, quelle passerelle d'études, de formations, de concours nous permettra d'y accéder. Pour certains plutôt que d'autres, il y aura la question de la construction de sa propre famille, de son logement sur le long terme. On parle en fait d'investissement, en somme. On parle d'investissements sociaux, professionnels, familiaux, amoureux, matériels, immatériels, etc. Les priorités, dès lors, en fait, elles sont plus les mêmes. On n'évolue plus simplement dans la candeur d'être juste autour des autres. Non. On se doit d'évoluer pour nous, notre futur nous-mêmes, et tout le reste qui l'implique. Une situation professionnelle stable, un endroit où vivre, et avec quelle personne amoureusement parlant, etc. Et quand bien il s'agit d'un processus tout à fait commun, que nous répétons différemment, mais que nous répétons quand même depuis plusieurs générations, faut le dire, il reste brutal à affronter à certains moments, du fait du décalage qu'il peut nous procurer. Parce qu'en effet, en fait, on passe de ces éternels ados qui ne comprennent rien à la vie, hein, comme on nous le dit, comme on nous le répète beaucoup, à ceux qui, soudainement, jeunes adultes, doivent tout comprendre, et vite. Nous sommes des adultes désormais. Nous n'avons plus le droit de justifier notre ignorance par notre insouciance. Ça, c'est réservé aux petits. Et ce chemin, en fait, de responsabilisation et d'intégration de concepts qui, au début, nous dépassent, ne se fait pas à la même vitesse pour tout le monde. Parfois, voir tout bouger autour de nous si vite, en fait, ça peut nous donner des sensations de vertige, de chute dans le vide, sans savoir de quoi même il est fait, de pourquoi il est là, et de ce qui nous attend en bas. Et la naïveté, la quiétude dans laquelle nous baignons plus jeunes, semble s'effriter pour certains plus que d'autres lors du passage à l'âge adulte, jusqu'à même parfois en laisser certains complètement sur le carreau. On peut se sentir exclu alors, Pourquoi ne ressentons-nous pas les mêmes choses en fait au même moment que les autres? Pourquoi n'avons-nous pas les réponses aux grandes questions de la vie comme ceux qui nous entourent et qui semblent savoir de manière si limpide ce en quoi ils aspirent, ce pourquoi ils sont faits, avec qui ils doivent être, dans quelle dimension, pour combien de temps? Ce sont toutes ces différences entre ceux et celles qui nous entourent qui creusent alors petit à petit ce fossé, cet écart, ce sentiment de solitude que l'on peut éprouver à être celui ou celle qui, sur certains aspects, voire tous, n'arrive pas à avancer comme les autres, ou à même ne pas savoir comment avancer. Si ce sentiment de solitude, nous avons appris à le dominer en comprenant, accompagné de cette forme de pudeur avec l'âge, que nous ne pouvons ni nous en plaindre, ni l'imposer aux autres, car il nous touche tous et toutes plus ou moins, il n'en reste pas moins qu'il existe, qu'il est là, et que parfois il n'est pas évident à accepter ou à composer avec. J'ai personnellement grandi dans un milieu où deux choses régnaient en maître et surtout en totale contradiction. 1. Il n'y a pas de sujet tabou et chaque émotion a le droit à s'exprimer et est légitime à exister. 2. Prendre du recul et se rappeler que on n'est pas à plaindre et donc pas en mesure la majeure partie du temps à être malheureux, malheureuse et nécessaire. Honnêtement, je ne suis pas là pour faire la diatribe du deuxième conseil parce que vous imaginez bien que c'est ce dernier qui peut s'avérer réducteur face au premier. Parce que, en fait, dans un sens, je comprends comment il a été amené. C'est que bien souvent, en prenant de la distance avec un problème auquel on est confronté, on se rend compte qu'il n'est pas aussi grave qu'on a pu l'imaginer. Et surtout qu'il est solvable. Plus jeune, ma mère, elle me disait, souvent d'ailleurs, accompagnée de cette phrase, « Tu sais, à ton âge, on se fait tout un monde de choses très petites qui nous arrivent. » Parce qu'on n'a pas d'autres comparatifs. Et dont l'impact négatif peut être en fait très rapidement appréhendé ou restreint grâce à toutes les ressources qu'on a à notre disposition. Et de ce fait, de ce constat, moi, pour éviter de me faire un monde de ce qui pouvait m'arriver, qui me touchait très fort, j'ai toujours écrit, j'ai toujours couché sur papier chaque situation inconfortable qui m'arrivait, parce que c'était pour moi la solution la plus simple pour voir qu'expliquer en quelques mots, enfin parfois même en quelques milliers de mots, ça varie, cette situation qui est prenante, qui est embêtante. Quand je la résumais, en moins, ça m'évitait qu'elle se subdivise en un trillion d'autres problèmes dans ma tête. Tout ça pour dire que, avançant dans le chemin de ma vie, j'ai toujours fait ce processus pour me confronter de manière saine et simple aux choses préoccupantes qui m'arrivaient. Mais quand il a fallu que je couche sur papier ce pourquoi je me sentais si seule parfois, tout est devenu plus fou à synthétiser en quelques mois. Je me sens seule, isolée, mais à la fois aimée, comprise et entourée. J'ai l'impression de me retrouver dans tellement de gens de mon âge ou même plus vieux, mais d'en être totalement étrangère à la fois. J'ai le sentiment que nous traversons tous et toutes les mêmes phases, mais de manière si différente qu'au final, pas tellement. Est-ce que je me sens aussi incomprise parce que je ne l'exprime pas assez, ou au contraire, parce que j'essaie de trop savoir en quoi, alimentant malgré moi cette sensation de l'être, je le suis de plus en plus? Dois-je trouver un moyen coûte que coûte de ne plus jamais me sentir seule, ou dois-je apprendre à accepter que cela arrivera tout au long de ma vie? Comment font les autres? À quoi songent-ils lorsqu'ils font face à eux-mêmes? Toutes ces questions, en fait, elles m'obsédaient. Et j'ai fini par les poser à certains de mes meilleurs amis, ceux avec qui il n'existe ni pudeur, ni tabou, ni culpabilité à ressentir quoi que ce soit à partir du moment où on le ressent. Et ce qui est très drôle, c'est que ces personnes, avec le temps, ont commencé à faire partie de moi. Vous savez, je pense que la plus belle chose qui soit dans l'existence à ce sujet, c'est de se nourrir de celle des autres. Je me nourris des joies, des peines, de l'expérience et du vécu des gens en général, et encore plus des gens que j'aime. J'aime à me dire en fait que cette sagesse qui justement apaise mes maux, mes moments de solitude, existe car elle est perpétuellement partagée au fil des années par ces gens que je considère comme ma famille. Alba et Romain, si vous passez par là, vous êtes archi méga visés. Et donc, pour en revenir à nos moutons, après cette petite déclaration, je leur ai donc demandé s'ils ressentaient la solitude comme moi. Sachant que nous avons tous les trois des vies très différentes. On n'a pas le même boulot, on n'habite pas au même endroit, ni dans les mêmes conditions. Il y en a un qui est tout seul, l'autre en famille et moi en coloc. Et tous les deux m'ont répondu, bien sûr, qu'on ressent de la solitude. On la ressent même plus particulièrement ces derniers temps. Et je leur ai demandé aussi pourquoi on la ressentait en plus de ça. On s'est accordé à dire tout d'abord que peut-être qu'on la ressentait plus à l'heure actuelle, car autour de nous, on a des amis qui sont en couple, certains même qui sont mariés, avec une vie professionnelle prenante, qui ont tant de choses leur occupant l'esprit, différentes de nous, que l'on se sent en décalage sur bien des aspects avec eux. Et ce décalage, en fait, il est normal, et n'implique pas forcément comme conséquence ce sentiment de solitude. Parce qu'on a tous, à échelle différente, des vies qui ne sont pas les mêmes. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a tous la même vie. et c'est ça qui est beau dans l'existence, c'est qu'on n'a pas tous la même vie, et que du coup, on se nourrit de celle des autres. Et bien que la solitude existe souvent par ce sentiment de décalage, ce fait isolé, donc de décalage, n'est pas créateur de manière sine qua non de solitude. Des décalages, comme je viens de le dire, on en a avec tout le monde. Néanmoins, voilà, dans le sujet que nous traitons, on part du principe qu'il est là, qu'il existe et qu'il participe activement à ce sentiment de solitude parfois. Et en fait, le problème, c'est que ce qui est difficile en grandissant, c'est pas de se sentir seul, mais c'est d'avoir l'impression d'être le seul à se sentir seul. Et donc ensuite, après avoir admis que ce sentiment de solitude existait dans chacun de chez nous et était plus présent à l'heure actuelle en raison de ces décalages flagrants, on va dire, qu'il existe entre des personnes qui nous ont toujours accompagnés plus ou moins, qu'on connaît depuis jeune, on s'est demandé pourquoi on pouvait ressentir cette solitude. Et il est apparu flagrant chez chacun d'entre nous une chose commune. Quand on se sent seul, on se sent vide. Ce qui en soi est assez évident quand on y pense. Mais qui amène par la suite bien des conclusions sur la raison qui fait que cela nous est si difficile à vivre par moment. Parce qu'on ressent un vide, on a besoin humainement qu'il soit rempli. Et si certains vides se remplissent par des choses telles que la nourriture quand on a faim, l'eau quand on a soif, d'autres, plus profonds, ont besoin d'être remplis par cette présence ou cette compréhension de notre entourage. Et à ce stade du podcast, parce que mieux que mille de mes mots pour creuser tout ça et les imager, on va prendre ceux de quelqu'un d'autre qui m'a grandement aidé à vous sortir ce podcast aujourd'hui et avec qui j'ai parlé de la vie sous toutes ses coutures. Je vous propose d'écouter ma petite entrevue avec Alba, donc une de mes meilleures amies. Et je vais vous laisser son point de vue sur la question, parce que du coup j'ai réussi à creuser avec elle certains sujets que j'arrivais pas à matérialiser, on va dire, toute seule dans mon coin et que j'ai trouvé très pertinent à vous partager dans ce podcast. C'est parti, je vous laisse écouter. Attends-tu inconsciemment ou consciemment que ton entourage comble un ou plusieurs vides chez toi?
Bien sûr, je pense que c'est le but des relations en général. Je pense que toute personne qui est dans ta vie t'apporte quelque chose dont tu manques ou dont tu as envie. Et c'est pour ça que t'es proche de ces personnes-là. Je veux dire, si toi, par exemple, tu m'apportais pas... je sais pas, si on rigolait pas ensemble ou si tu m'apportais pas de l'honnêteté et de l'objectivité, on serait pas amis. Mais les relations sont égoïstes, donc oui.
Et est-ce que tu ressens pas parfois, selon cette hypothèse, une forme d'exigence non justifiée que l'on peut avoir envers nos amis quant à leur présence dans notre vie? Dans le sens de, on attend qu'ils comblent quelque chose en nous.
Mais en fait, je pense que oui. Encore une fois, je pense que tout le monde pense comme ça. Dans le sens où, bon, à part quand t'es lassé de la vie et que t'attends plus rien de personne, ce qui est triste d'ailleurs. Mais bien sûr, je pense que quand, surtout quand t'es pas bien, t'as l'impression que tout le monde doit être tout le temps disponible pour toi. Et moins t'as d'amis, parce qu'avec le temps, je pense que c'est... Je dis beaucoup, je pense. C'est beaucoup ce qui se passe. T'as moins d'amis, ils sont plus importants, mais t'as moins d'amis quand même. Enfin, d'amis sur lesquels tu peux vraiment compter. Genre, du coup, chacun a sa vie, chacun fait ses trucs, ses expériences, à ses propres peines aussi, parce que tu t'es pas la seule à ressentir de la tristesse. Des fois, c'est dur, parce qu'il faut que tu... te repose sur toi-même, en fait.
Et du coup, de ce fait, comme tu, en fait, tu as anticipé une question que je disais, c'est que
incroyable.
Penses-tu que l'entourage doit tout justement remplir ce vide et que c'est pour ça qu'on s'entoure amicalement, amoureusement, familialement? Du coup, tu m'as dit oui.
Personnellement, je pense que oui. Pour la deuxième question, en mode thérapie, oui, je pense que sur certains points, j'ai besoin d'une thérapie. En fait, je pense que quand t'as pas une estime qui est assez bonne de toi, bah t'as l'impression que tu seras jamais assez bien pour les autres et donc du coup qu'ils doivent remplir ce point-là, alors que personne ne peut avoir confiance pour toi-même, en fait. Par contre, sur le premier point, t'en attends des autres pour qu'ils comblent quelque chose, mais t'attends pas que ça d'eux. Je veux dire, c'est ça qui fait que les amis sont aussi proches, c'est que des fois, tu vas me surprendre et tu vas me donner quelque chose dont je savais pas que j'avais besoin, et au final, bah, ça m'a fait trop du bien, tu vois.
Et parfois même, c'est nous qui allons apporter aux autres personnes une clé.
Ouais, voilà.
On va intervenir pour eux, et du coup, ça va aussi nous satisfaire, nous, tu vois, dans nos...
Ouais, et c'est pour ça que des fois, je vais aller voir tel pote au lieu de tel pote, parce que le premier, il m'aura dit telle chose, et le deuxième, il m'aura posé une question à laquelle j'avais jamais pensé, ça va remettre en question tout ce à quoi je pensais avant, tu vois. Ça va me faire voir le problème d'une autre manière. Et je pourrais potentiellement mieux le régler. Donc oui, des fois, les gens de qui tu t'entoures vont combler un vide qui n'existait pas ou dont tu ne connaissais pas l'existence. Et c'est ça qui rend les amitiés encore plus fortes, je pense.
Comment gères-tu les moments de solitude que tu ressens? Et je parle bien de solitude et pas de compagnie où tu es seule.
Je fais une pause. Je fais une pause sur... parce que la solitude, je peux la ressentir quand je suis avec beaucoup de gens, tout comme quand je suis seule. Mais je prends une pause, je prends un peu de distance avec ce que je fais et j'essaie de prendre un moment pour moi. Et quand je suis seule et que je me sens seule, je fais des trucs pour me rendre compte que bah, ma propre compagnie peut être très bien. Ou alors je vois mes potes ou, mm-hmm. ou si j'ai besoin, tu vois. Mais je peux recharger mes batteries toute seule en faisant des trucs pour moi-même, tu vois. Genre que ce soit peindre, que ce soit lire, que ce soit me faire des petits carnets, des to-do list, des trucs tout bêtes, tu vois. Mais qui vont m'aider à bah, me sentir moins seule, ouais.
Est-ce que tu le verbalises? Est-ce que tu ne le verbalises pas? Est-ce que...
Je pense que ça dépend avec qui je suis. Mais généralement, les personnes que je vois sont très proches de moi. Donc oui, je pense qu'il faut toujours en parler. Et la personne en face, dans tous les cas, encore une fois, moi, je préfère rester entourée de personnes qui me comprennent majoritairement. Donc bah, je le verbalise, j'en parle et on en parle ensemble, tu vois. Donc, et là, la personne va potentiellement me donner des clés ou me dire, bah, écoute, je comprends, on peut rester là et être ensemble et pas parler, tu vois. Ou alors... Bah, on en parle, ou alors bah, on n'en parle pas, on fait genre de rien, on parle d'autre chose, tu vois. Mais il y aura toujours des solutions et je pense que oui, des fois, il faut savoir se reposer sur les autres aussi, tu vois.
Comment vois-tu évoluer la question de la solitude comme tu la vis à l'heure actuelle à l'avenir? Est-ce que pour toi, c'est transitoire ou est-ce que c'est quelque chose que tu connaîtras toujours?
Comment dire? Pour moi, c'est comme la tristesse, c'est pas linéaire, en fait, c'est... Ça va, ça vient, des fois ça revient, c'est Claude François qui l'a dit. Oui, je pense que tu te sentiras toujours seul à un moment ou un autre, c'est juste que plus tu grandis et plus tu as les clés pour changer ça en fait, ou pour savoir bah, comment mieux le gérer, mais tu le sentiras toujours, c'est juste que tu l'auras assimilé plus facilement avec le temps.
Est-ce que tu penses qu'à terme, l'idée de construction d'une famille est une manière consciente ou inconsciente de pallier à cette solitude?
Ça, c'est une question dure. Avoir des amitiés, déjà, genre d'un côté, oui, c'est égoïste, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que tu cherches quelque chose chez quelqu'un, mais je pense que c'est un bon égoïsme. Pour moi, avoir des enfants, c'est égoïste. Après, je dis pas que moi, j'en veux pas ou j'en ferai pas, bien sûr, on est tous égoïstes. Mais par contre, avoir des enfants, c'est remplir un vide et se donner un but, tu vois, genre, quel qu'il soit, même s'il est bon ou mauvais, c'est se donner un but.
Parce que tu vois, genre, je me faisais la réflexion, j'ai vu un réel il y a pas longtemps, d'une meuf ou d'un mec, je sais plus, qui disait genre, mode, ce qui me manque en fait le plus dans mon enfance, c'était que tout le monde était à la maison. C'est que le soir, après l'école, quand tout le monde rentrait du taf, des activités scolaires et tout, il y avait tout le monde à la maison. Et dit, en grandissant, il n'y a plus tout le monde à la maison, tu vois. Il n'y a plus mes deux parents ensemble, parce que déjà mes parents sont divorcés. Il n'y a plus mon frère parce qu'il est parti faire sa vie et qu'il construit sa famille. Et en fait, c'est vraiment tu vois, l'idée de cohésion, de noyau, quoi. C'est que le soir, tu n'es jamais seul. Et toi, j'y réfléchissais, je me dis pourquoi c'est aussi important chez nous l'idée de vouloir fonder une famille, au-delà de l'amour, tu vois, genre de j'ai envie d'avec ma partenaire avoir un enfant, enfin parce qu'on s'aime, etc., et que c'est un peu notre mini nous. C'est que je me dis genre en fait c'est aussi ne plus jamais être seule, enfin pendant minimum 18 ans, tu vois ce que je veux dire?
Et encore toute ta vie, que tu vas être important pour quelqu'un, que la personne elle aura besoin de toi.
C'est un amour inconditionnel.
Ouais. Et puis même de te dire là il y a quelqu'un dans ce monde qui a besoin de moi, ça fait trop du bien. Je pense que c'est je pense que c'est libérateur sur plein de points de savoir qu'on a besoin de toi en fait.
Parce que tu vois, genre je disais, j'en parlais hier avec un pote. Je trouve que ce qui donne envie, tu vois, d'avoir une famille, c'est que t'as une question d'amour inconditionnel. C'est qu'avec tes amis, tu peux en être très proche, tu vois, genre comme nous on l'est, mais on sait que sur certains points, il y a des conditions. Et ce que je veux dire, c'est que t'as quand même plus cette notion d'amour inconditionnel, de t'aimes sans réserve, t'aimes sans condition. Alors que les amis, vu qu'on parle de bonus quand même dans notre vie, quand même, on partage des bons, des mauvais moments, tu vois. La question du bonus. Et ça, c'est une question que tu choisis. Genre, si à un moment, la personne ne satisfait pas les conditions, tu vois, genre, à terme, elle va plus être là. Et je pense que tu vois, ce qui est beau dans l'amour familial, c'est que justement, tu n'as pas ces conditions-là.
Sur un autre registre, enfin, pour venir au sujet, ressens-tu une certaine forme de honte ou de culpabilité ou de faiblesse à te sentir seule? Ou les trois en même temps, enfin bref, t'as capté, tu vois.
En soi, non, parce que je sais que tout le monde le ressent. Des fois, j'ai honte d'en parler, parce que je me dis, en fait, que tu te sentes seule, c'est une chose, que t'aies encore besoin d'aide, ça, c'en est une autre. Mais à terme, j'essaye de faire la paix avec moi-même sur le fait que bah, tout le monde a besoin d'aide, que moi j'aide mes potes autant que moi j'ai besoin d'eux. Et voilà, mais c'est pour moi ça qui est le plus dur, c'est de demander de l'aide et en parler. Alors qu'au final, la personne en face de toi va pas te juger si c'est vraiment quelqu'un qui est bon pour toi. Et en plus de ça, bah, ça va t'aider toi, quoi.
Et est-ce que t'as l'impression d'y être plus confrontée en grandissant que quand t'étais plus jeune?
Bah, bien sûr, je veux dire... En grandissant, t'as tout le monde qui commence à avoir son cercle, je veux dire, que ce soit familial, parce que là, on a l'âge, toutes les deux, c'est soit on est étudiante, soit on connaît des gens qui ont des bébés, enfin, je veux dire, tout le monde commence à avoir sa propre petite vie, avoir une maison, un appart avec son chéri ou sa chérie, tu vois, et avoir des enfants, à commencer à planifier des voyages, le boulot aussi, parce que c'est énorme, tout le monde a des boulots différents, des trains de vie différents. Oui, bien sûr, tu vois moins tes potes. Quand tu étais au lycée, tu te levais le matin, tu passais la journée avec eux, tu rentrais chez toi, tu jouais à la console avec eux, et puis tu partais te coucher, et le lendemain c'était pareil, tu vois. Alors que maintenant, et le week-end, tu les voyais aussi. Enfin, je veux dire, maintenant, c'est plus pareil. Le week-end, ben, des fois, tu dois rentrer chez tes parents, profiter d'eux. La semaine, t'es en train de bosser, t'es sur tes études, t'as plus autant le temps. Et puis, essayer de mettre tous les emplois du temps de tout le monde en même temps, c'est hyper compliqué. Donc oui, avec le temps, t'as plus de moments de solitude et du coup, tu la ressens plus, je pense.
Ce qui ressort donc de cet échange, en fait, se résume en ces points, à savoir 4. Premier point, il est normal que nous ressentions des phases de solitude. Car elles ne sont pas linéaires, sauf dans le cas d'un mal-être vraiment puissant qui relève de la thérapie, et ces phases, elles vont fluctuer toute notre vie. Deuxième point, s'il est possible avec le bon entourage, il faut en parler et ne pas se renfermer sur soi, que ce soit par pudeur ou égo ou le reste. Même si parfois prendre du recul est nécessaire pour s'y habituer, s'y confronter et ainsi vivre avec d'une certaine manière, sachant que cela reviendra à un moment ou un autre, le reste du temps, surtout quand ça devient trop pesant, il ne faut pas justement s'accabler de pudeur et s'empêcher de demander de la présence, de l'aide, du soutien de nos proches, peu importe la forme par laquelle ça se présentera. Car nous sommes tous et toutes là pour ça, selon ce qu'on peut faire par rapport à nos calendriers respectifs, bien évidemment, nos disponibilités. Après, troisième point, certains vides, et il est sain de se l'avouer, ne peuvent pas juste être comblés par notre entourage lors de ces phases de solitude. Car il s'agit de choses qui nous dépassent, et les dépassent donc inévitablement, et donc ils ne peuvent pas compenser puisque nous-mêmes, nous n'en avons pas en fait les clés de compréhension. Il peut être intéressant, dans ce cas-là, si ça persiste, de solliciter l'aide d'un professionnel de la santé. Parce que comme disait Alba, et j'ai trouvé ça très juste, les personnes ne peuvent pas avoir confiance pour vous. Ils ne peuvent pas inlassablement combler ce vide. Si ça résulte d'un mal-être, d'un trauma, etc., qui va bien plus loin que juste de la présence de temps en temps, alors peut-être qu'en effet, sur certains aspects, il ne faut pas hésiter, même si je sais, c'est compliqué, mais il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Il ne faut pas hésiter, voilà, à consulter un professionnel de la santé. Parce que sinon, en fait, ça va continuer de creuser de plus en plus fort votre décalage avec les gens qui vous entourent. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas remplir pour vous. Vous aurez encore plus le sentiment soit d'être délaissé, soit d'être incompris, incomprise. Et ça, faut l'éviter. Parce qu'en fait, c'est pas que vos amis ne vous comprennent pas. Enfin, dans le cas où je parle voilà, d'amitié saine et respectueuse et tout. C'est juste qu'ils ne peuvent pas vous aider sur des sujets déjà où ils ne sont pas formés, on va dire, et habilités pour. Ou parce que vos amis, sur certains points, ça peut juste être de... Bien sûr, ils peuvent être de très bons conseils, mais sur une aide psychologique, à moins qu'ils soient psychologues ou psychiatres ou que sais-je, ils ne sont pas formés à ça. Donc, ils vont avoir leurs limites dans la compréhension et dans l'aide qu'ils peuvent vous apporter. Et ça, il ne faut pas en fait leur en vouloir ou vous dire « Ouais, mais mes amis ne me donnent pas assez, ils n'essaient pas assez de me comprendre, de se mettre à ma place. » C'est que n'oubliez pas que chacun, on est préoccupé par nos vies. Chacun aussi, on a nos limites de compréhension. Ce n'est pas parce que votre ami vous est dévoué, que vous aimez de tout votre cœur, qui peut vous comprendre à 100%. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre les autres à 100%. Parce que vous-même, vous n'arrivez pas à vous comprendre à 100%. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, un point que j'ai trouvé hyper important à aborder, et je pense que ça vous a peut-être pris de court quand je l'ai intégré dans l'interview avec Alba, c'est que, nécessairement, quand je me suis posée et que j'ai réfléchi à comment on pouvait contrer la solitude, je me suis rendu compte que, en fait, pour éviter de se sentir seule, fallait qu'on ait besoin de nous, d'une certaine manière. Pas besoin de nous dans un sens malsain, etc. On a tous besoin les uns des autres, que ce soit pour se faire rire, pour s'aimer, pour partager nos peines, etc. Machin. C'est dans ce sens-là où je dis besoin de nous. Et en fait, je me suis rendu compte que pourquoi on voulait tous et toutes construire des familles à un certain point, c'était justement pour ne pas se sentir seul. C'est que quand on dit dans l'interview avec Alba que les relations humaines sont égoïstes, ce n'est pas dans le sens péjoratif et mauvais, c'est dans le sens factuel. C'est qu'en fait, toutes les relations que l'on noue, c'est parce qu'elles nous apportent à terme. Elles nous apportent de l'objectivité, de l'honnêteté, comme elle disait, mais au-delà de ça, elles nous stimulent, elles nous enrichissent. Et c'est en ça, en fait, qu'on dit que c'est égoïste. C'est que je vais vers toi parce que tu m'apportes, parce que tu combles des vides, parce que tu me stimules, parce que, tu vois, là, parfois, tu me pousses dans mes retranchements, mais des bons comme des moins faciles à affronter, mais tu n'es pas moi. Tu m'apportes quelque chose que je ne peux pas m'apporter. Et en fait, la construction d'une famille, c'est s'apporter cette solution qui est très belle, en fait. Hein. La famille, c'est très beau, c'est pétri, c'est empreint d'amour. Ça, ce n'est pas remis en question. Faut pas, quand je dis c'est égoïste, faut pas voir ça en mode « Ouais, tous des égoïstes, ceux qui ont fondé une famille. » Non. Je dis juste que naturellement, nous le sommes tous et toutes et que c'est normal. Mais du coup, voilà, moi, je me suis dit « Est-ce que c'est ça la solution à long terme pour ne pas se sentir seule ?» Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, quand on voit à un certain âge tous nos amis se poser, construire voilà, des familles, peu importe la forme qu'elles prennent, ben, du coup, on se dit « Et moi, je peux pas en fait rester toute ma vie sur le bas-côté, seul tout. » Genre littéralement. Et la solution qui nous apparaît, c'est que ça changera le jour où on rencontrera quelqu'un, amoureusement parlant, avec qui on fondera une famille. Encore une fois, que votre famille se résume à vous deux avec un chien, avec un chat, avec des enfants, on s'en fiche. Voilà, la famille, le terme famille n'implique pas nécessairement mariage, enfant ou que sais-je, mais vous voyez dans quel sens je veux le dire, dans le sens de former une cohésion voilà, de la vie de tous les jours. Et je pense que bien évidemment, c'est 99% des raisons qui font que les gens se mettent avec d'autres personnes et créent, construisent des familles à long terme. On fera quand même face à des phases de solitude, parce qu'encore une fois, le sentiment de solitude n'implique pas nécessairement d'être juste seul. On peut se sentir seul en étant accompagné. Mais par contre, je pense qu'on le ressent beaucoup moins parce qu'on a tellement de choses à faire et à penser, dans une famille par exemple, d'impératifs, de priorités, comme le disait Alba, que du coup, on a moins de temps pour ces phases en général. Et le truc, c'est que autant je trouve ça normal, et enfin normal avec des guillemets, de penser à cette issue, parce que je pense qu'en fait, c'est imprégné en nous, en tant qu'humain, parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. L'être humain, il est fait pour évoluer en groupe. Voilà, on dit l'être humain, c'est un animal sociable. Et c'est vrai. Je pense fondamentalement qu'on ne peut pas vivre seul. Et quand je dis seul, c'est vraiment le vrai seul, le vrai ermite. Je ne parle pas de votre propre compagnie que vous avez quelquefois. Non, je parle de là, vous n'avez plus aucun contact humain, en fait. Même cordial, même de vie, genre en mode vous allez acheter votre pain. Je pense que nous ne sommes pas faits pour ça. Ce qui nous apporte, c'est de partager avec les gens, peu importe à quelle échelle. Hein. Voilà, hein, c'est partager une fois dans le mois, une fois dans la semaine, peu importe. Mais du coup, je pense que donc, cette issue de fonder une famille, elle est ancrée en nous parce qu'elle est limite instinctive pour se protéger, pour éviter voilà, de sombrer dans des pans qui sont sombres, justement. Mais dans un autre, le temps qu'on arrive à cette issue, qui d'ailleurs n'a pas de forme, pas de temporalité, vous pouvez très bien construire cette famille ou pas, d'ailleurs. Et peu importe l'âge, que ce soit à 25, 30, 40, 50, 60, voilà. Moi, je vois mes parents, ils sont divorcés. Ils ont reconstruit leur vie de famille à l'heure actuelle. Voilà, mon père s'est remarié. Ma mère, elle est avec quelqu'un d'autre. Et pour autant, ils l'ont fait à 50 ans. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de temporalité à construire ou à reconstruire quelque chose selon des envies qui, en plus, seront changeantes. Vous n'avez pas les mêmes envies quand vous avez 25 ans que quand vous en avez 60. Et encore heureux, d'ailleurs. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que jusqu'à ce que ça arrive ou non, ne vous dites pas « je manque de quelque chose » et je vais prendre tous les moyens qui vont passer, voire les mauvais, pour pallier à ce décalage et ainsi ne plus me sentir seule. Parce que, et c'est facile à dire bien évidemment, parce que cette pression qu'on ressent, sociétale très importante, hein, autour du célibat, autour du fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas s'être marié ou que sais-je, elle nous accable et on en accuse le coup l'âge passant. Et je trouve que c'est extrêmement triste. Et c'est ce qui fait que certaines personnes se mettent avec des personnes qui ne les correspondent pas, avec qui l'histoire ne va pas marcher, va leur faire du mal même, va créer des traumas, parce qu'il y aura tellement eu cet impératif qu'on aura subi encore et encore de « oui, mais si tu veux pas être trop différent des autres et ne pas te sentir aussi seul, toi aussi fais quelque chose, crée quelque chose, crée ta famille, crée ton cocon de couple que tu peux retrouver tous les soirs. » C'est ça en fait qui est triste, c'est de vous dire « oui, être amoureux, être amoureuse, être avec quelqu'un qui vous fait du bien, construire quelque chose, c'est très beau, c'est très noble. Mais est-ce qu'on doit le faire coûte que coûte, à tout prix, peu importe les conséquences sur notre santé mentale, physique, que sais-je, pour fitter avec justement ce moule sociétal que l'on voit et ne pas se sentir seul, je ne pense pas que c'est une solution en soi. Et c'est quelque chose de très très difficile à assumer à l'heure actuelle, parce que ben oui, on a ces idées, mais un jour ou l'autre, on finit confronté au fait qu'on est en décalage avec les gens qui nous entourent, parce que c'est une idéologie qui n'est pas encore suffisamment, je trouve, abordée, et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui en podcast, c'est justement voilà, de détaboutiser tout ça et de dire non, la solution unique, c'est pas de foncer tête baissée et de faire comme les autres alors qu'on n'est pas encore prêt, alors qu'on tâtonne encore, alors qu'on n'a pas trouvé là ou les bonnes personnes pour le faire. Juste voilà, pour ne pas être en décalage avec ces personnes, ce n'est pas une solution satisfaisante et nous n'avons pas à le subir, juste sous prétexte qu'on a envie d'échapper à cette solitude. Si la solitude, elle existe de manière indépendante, elle n'est pas curable par une issue seule. Donc il n'y a pas une issue merveilleuse et toutes les autres n'existent pas. Celle de la construction de notre propre famille semble la plus évidente, car on y est confronté depuis des générations, mais il y a d'autres moyens existants à notre portée. Prendre du temps pour nous, nouer des liens avec de nouvelles personnes, se sortir de nos zones de confort et tester des choses qui nous stimulent, qui élargissent notre champ de vie et nous évitent de rester bloqués en fait dans des spirales où on se sent isolé du monde qui nous entoure. Parce que je crois que, en vérité, c'est ça la clé pour ne plus jamais se sentir seul. C'est apprendre, réapprendre, sentir qu'un monde baignant d'amour, de possibilités infinies nous inonde et nous accompagne chaque jour. Et que de ce fait, nous ne sommes jamais véritablement plongés dans une solitude sur laquelle nous ne pouvons rien faire. Sur ces paroles, j'espère que cet épisode vous aura joliment accompagné et stimulé pendant ces quelques minutes que j'ai eu l'immense plaisir de partager avec vous. Je sais que ce sujet n'était pas évident et peut-être que vous serez d'accord sur des points, pas d'accord avec d'autres, n'hésitez pas, c'est une plateforme d'échange, je n'impose pas du tout de vérité absolue mais simplement mon ressenti, mon recul par rapport à la question. Donc voilà, n'hésitez pas par DM ou par réponse à proposer vous comment vous ressentez les choses, vos solutions, vos issues, etc. Ça me ferait super plaisir. Et en attendant que vous rapprochiez de ce monde qui vous entoure et qui vous, voilà, qui vous illumine d'amour, de possibilités, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast Summer Talk. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort.